de Mistress Oliphant, le roman anglais La ville enchantée. Chapitre 1er. Récit de Monsieur le maire, l'état d'esprit à Semur. C'est moi, Martin Dupin de la Clairière, qui avais l'honneur d'être maire de Semur en Haute-Bourgogne, à l'époque où se sont passés les événements que j'entreprends de raconter et que j'ai pu suivre de plus près que personne en ma qualité de premier magistrat de la ville. Du reste, quoiqu'il ne convienne pas de mentionner ici les vertus civiques et la haute intégrité qui, depuis de nombreuses générations, ont assuré à ma famille l'estime de mes concitoyens, je me contenterai de dire que les Dupin, de père en fils, sont bien connus à Semur. Le domaine de la Clairière se trouve depuis si longtemps en notre possession que si l'envie nous en prenait, nous pourrions ajouter ce nom au nôtre, comme tant de familles en France ont coutume de le faire. Libre à ma femme, dont je respecte les préjugés nobiliaires, d'inscrire ce nom sur ses cartes de visite, mais pour moi, j'entends mourir comme je suis né, sans particules. Après mon père et mon grand-père, j'habite le numéro 29 de la Grande Rue, en face de la cathédrale, et à quelques pas de l'hôpital Saint-Jean. Nous occupons le premier étage et avons aménagé le rez-de-chaussée pour les besoins de la famille. Ma vénérée mère vit avec nous dans une harmonie parfaite. Ma femme, née de Champfleury, a toutes les qualités d'une femme modèle, et la joie de notre foyer serait sans nuage si la mort, hélas, n'avait ravi à notre affection un des deux enfants que m'a donné Madame Dupin. J'ai cru devoir relater ces menus détails qui sont nécessaires à l'intelligence de ce qui va suivre. J'ajoute quelques indications sur l'état de notre ville à la veille des événements remarquables qui font le sujet de ce récit. Vers le milieu du mois de juin dernier, au soleil couchant, je traversais les rues de Semur pour rentrer chez moi, quand mon attention fut attirée par un incident sans grande importance. Je venais d'inspecter à la clairière un jeune vignoble que j'avais trouvé en excellente condition et vierge encore de toute atteinte de phylloxéra. Je marchais de belle humeur en pensant à cette nouvelle promesse de prospérité, juste récompense d'une vie fidèle à tous ses devoirs. En effet, qu'aurais-je pu me reprocher ? Homme privé, n'avais-je pas la pleine approbation de mon épouse, de mes parents, de mes voisins, de mes serviteurs? Magistrat, la ville entière, bien que particulièrement exigeante, ne m'avait-elle pas donné, comme à plusieurs des miens avant moi, des gages publics de sa confiance? Je ruminais tout cela avec complaisance, lorsqu'au coin de la grande rue et près de chez moi, le tintement d'une clochette m'avertit que le prêtre allait passer, portant les derniers sacrements à quelques malades. Les femmes qui se trouvaient là s'agenouillèrent. Je ne les imitais point. Homme de mon temps et docile au progrès, je me suis dépouillé de ces convictions religieuses qui doivent rester l'apanage du sexe dévot. Mais, à défaut de tout autre motif, la bonne éducation seule me commandait de m'écarter avec respect et de me découvrir devant le pieux cortège. Comme je remplissais ce devoir, voici venir en face de moi cet écervelé de Jacques Richard, l'être le plus têtu qui soit en France. Le chapeau sur la tête, les mains dans les poches, il continuait son chemin au beau milieu de la rue, malgré les supplications d'une bonne femme et l'avertissement que je crus devoir lui donner moi-même. Monsieur le curé n'est pas homme à biaiser. Quand il passa, rapide à son ordinaire et tout d'une pièce, le bas de son étole frôla la blouse de Jacques. D'un brusque froncement de sourcils et d'un vif regard, il dévisagea le malappris, mais sans se distraire davantage de la mission sacrée qu'il allait remplir. Prêtre ou laïc, en effet, n'est-ce pas une mission sacrée que d'aller porter auprès d'un lit de mort les meilleures consolations dont on dispose? C'est ce que j'expliquais à Jacques pendant que s'éloignait le tintement de la sonnette. « Jacques, lui dis-je, je n'appellerai pas cela un sacrilège, comme ces bonnes femmes, mais un manque d'humanité. Comment ? Voilà un homme qui va porter secours à un mourant, et tu choisis ce moment pour lui manquer de respect. » Le rouge lui monta au front, et je crois bien qu'il aurait eu honte de sa conduite si les femmes n'étaient venues à la rescousse. Elles n'en font jamais d'autres. « Laissez-le, monsieur le maire, criait-elle. Ce vaurien ne mérite pas qu'on lui parle, et puis que voulez-vous qu'il vous écoute, lui qui ose barrer la route même au bon Dieu ?»« Oh, le bon Dieu, repartit Jacques, ben qu'il vienne donc faire lui-même sa police. Laissez-moi dire, je ne donnerai pas un sou de votre bon Dieu. Voici le mien, je le porte avec moi. » Et là-dessus, il sortit de son gousset un écu. Où diable l'avait-il pris? « Vive l'argent ! » criait-il. « Il n'y a pas d'autre bon Dieu. Vous n'avez pas le courage de le dire, mais tout le monde est de cet avis. »« Mais silence, impertinent ! » répliquai-je. « Mais les femmes sont portées de plus belles. »« On verra bien, » disait l'une, « on verra bien. Laissez qu'il tombe malade et qu'une bonne fièvre le brûle. Nous verrons de quoi lui servira son bon Dieu. » Et une autre, les bras crispés, les mains jointes, criait d'une voix perçante. « Mais c'est plus fort qu'il en faut pour faire sortir les morts de leur tombe. » Les morts sortir de leur tombe. Oh, je ne sais pourquoi ce dicton pourtant banal m'impressionna fortement. Cependant, je suivais les yeux les cervelés qui continuaient sa route, jonglant avec son écu de 5 francs. Une fois, la pièce tomba et sonna sur le pavé. Il rit plus haut en la ramassant. Il allait, face au soleil couchant, et moi de même, à quelques pas derrière lui. Le ciel était couvert de les nuages roses qui flottaient dans l'azur, très au-dessus des tours grises de la cathédrale. La longue rue Saint-Étienne que Jacques venait de prendre flamboyait. Traversant la grande rue pour rentrer chez moi, j'aperçus encore la blouse bleue de Jacques et l'éclair de la pièce de 5 francs qu'il continuait à faire sauter en l'air. Il riait, il criait toujours « Vive l'argent, c'est ça le vrai bon Dieu !» Je n'ignore pas que la plupart vivent comme s'ils partageaient cette opinion, mais enfin, ils ne se permettent pas de la formuler d'une façon aussi brutale. Allumés par la verve de Jacques, quelques passants riaient comme lui. « Bravo, bravo !» lui disait-on. Un homme lui dit « T'as bien raison, mon ami, l'argent est le seul Dieu qui en vaille la peine. » Un autre, ayant rencontré mon regard, « Ce catéchiste n'est pas trop long, n'est-ce pas, monsieur le maire ?» Celui-ci, du moins, ayant remarqué mon déplaisir, ne prolongea pas ses plaisanteries maisonnantes. « Non, Jean-Pierre, lui dis-je, ce n'est pas long, mais en revanche, c'est tout ce qu'il y a de plus grossier. Et j'espère bien que ceux qui le respectent ici n'approuvent pas un pareil langage si contraire à la dignité de notre nature, pour ne rien dire de plus. » « Ah, monsieur le maire !» interrompit une femme du marché, les bras chargés de corbeilles. « Ah, monsieur le maire, n'avais-je pas raison de dire « C'est plus qu'il en faut pour faire sortir les morts de leur tombe !»« Oh là là !» fit Jean-Pierre fort amusé. « Voilà qui ferait un beau spectacle. Je vous en prie, ma bonne femme, si vous avez quelque relation avec ces messieurs, demandez-leur de vouloir bien se montrer avant que j'aille les rejoindre. » Ici, je l'arrêtais. Je n'aime pas ces plaisanteries, Jean-Pierre. Les morts sont morts, sans doute, et ne risquent plus d'inquiéter personne. Mais il faut respecter les préjugés des personnes honorables. Un voyou comme Jacques, ça n'a pas d'importance, mais de toi, mon ami, en vérité, j'attendais mieux. Que voulez-vous, monsieur le maire? Répondit-il en haussant les épaules. Ainsi va le monde. Je respecte les préjugés, comme vous dites. Ma femme est une bonne créature, elle prie pour deux, mais moi. Qui sait si Jacques n'a pas raison, après tout? Un bel écu de 5 francs, cela se voit. Cela sert à quelque chose, quant à l'autre. Il n'acheva pas, mais la tête narquoisement penchée sur l'épaule gauche, il étalait ses deux mains grandes ouvertes dans le vide. Je répondis sévèrement qu'il fallait toujours respecter les convictions d'autrui, et peu désireux d'encourager les discussions en pleine rue, je rentrais chez moi. Dans la position que j'occupe, il importe de ne donner que de bons exemples. Mais je n'en avais pas encore fini avec la phrase qui m'avait si fort troublé tout à l'heure. J'entendis ma mère qui, dans la grande salle du rez-de-chaussée, parlementait chaudement avec un marchand de fagots. Il arrive, oh, je l'ai du moins remarqué plusieurs fois, qu'à certains jours, il y a des mots qui sont, pour ainsi dire, dans l'air. Une oreille un peu exercée les saisit d'abord, comme une sorte de refrain au va-et-vient des conversations les plus disparates. Imaginez donc quelle fut ma surprise lorsque, des lèvres de ma digne mère, j'entendis tomber ces mêmes paroles que Jacques Richard venait d'employer pour formuler sa grossière philosophie. « Allez-vous-en » criait-elle avec impétuosité. « Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez pas d'autre dieu que les pièces de 100 sous. » « Et puis après ?» répondait le paysan d'une voix placide. « Et puis après ? Est-ce que vous tous, beaux messieurs et belles dames, vous n'en êtes pas là aussi ? De quoi se soucie-t-on dans le monde, sinon de l'argent ? Pensez-vous à un mariage ? Vous demandez avant tout quelle sera la dot, et quand vous avez dit que monsieur a un tel est riche, vous avez tout dit. Et c'est très juste. Nous voyons ce que l'argent nous donne, mais pour le bon Dieu, dont nos grands-mères parlaient si souvent. » Là-dessus, ne voilà-t-il pas que ce gros paysan achève sa pensée exactement par le même geste que Jean-Pierre, haussant les épaules jusqu'aux oreilles, étendant les mains ouvertes comme s'il disait « Bon, tout ça, c'est des bêtises !» Autre refrain dont le retour me frappa encore davantage. Ma respectable mère, la sainte femme, rouge d'indignation et d'horreur, « Oh, ces pauvres grands-mères » cria-t-elle, « que Dieu leur fasse paix. C'est plus qu'il leur faut pour faire sortir les morts de leur tombe. »« Oh, pour les morts, j'en réponds, » répliqua le paysan. « Pas de danger qui fasse tort à personne. » Sur ces mots, j'entrai dans la salle et réprimandai sévèrement le rustre qui se trouva convaincu d'avoir voulu frauder sur sa marchandise. Heureusement, ma digne mère n'avait pas été moins fine que lui. Elle remonta dans ses appartements en branlant la tête, pendant que je faisais comprendre à cet homme que je ne permettrais pas que dans ma propre maison on manquât de respect à ma mère. Elle a ses opinions, ajoutai-je, qu'elle partage avec tant de dames respectables. Ici, du moins, ses opinions doivent être sacrées. Pour être juste, je tiens à ajouter que Gros-Jean, ainsi éclairé par moi, rougit lui-même de ses propos. L'heure venue de nos confidences quotidiennes, le récit que je fis à ma mère des incidents qu'on vient de lire, la remplit d'angoisse. « Mais je ne veux pas croire, me dit-elle, qu'il soit aussi mauvais que belle maman se l'imagine, mais oh, mon ami, où allons-nous donc ? Si la foi est vraiment morte chez ces pauvres gens. » Courage, lui répondis-je, le monde n'est ni meilleur ni pire qu'autrefois. Aussi longtemps que nous aurons des anges comme toi qui brillent pour nous, le mauvais plateau de la balance ne l'emportera pas sur le bon. Ce disant, je n'avais voulu sans doute que rasséréner mon Agnès, qui est bien la meilleure des femmes. Néanmoins, en approfondissant plus tard cette pensée si touchante, je ne pus m'empêcher d'être frappé de son extrême justesse. En effet, bien qu'au demeurant la femme soit inférieure à l'homme, le bon Dieu, si vraiment cet être suprême est tel que l'Église nous le représente, doit naturellement prendre en égal souci les deux moitiés de ses créatures. Il semble donc que la piété des unes doive compenser l'incrédulité des autres, surtout si, comme on le dit, les femmes sont en plus grand nombre que nous, auquel cas les quelques femmes qui n'ont pas de religion ne renverseraient pas l'équilibre. Quant à ces dernières, je dois ajouter que je les abomine du fond de mon cœur, estimant que le droit de se dire libre penseur doit rester le privilège de notre sexe. Il n'est pas utile que je m'arrête à d'autres menues scènes du même genre qui enfoncèrent dans mon esprit les réflexions de cette soirée. On sait de reste que ce mur n'est pas le centre de l'univers, dont l'on serait tenté de conclure que nous avons échappé jusqu'ici au tourbillon des passions mondaines. Les plaisirs sont rares chez nous. On peut dire que nous n'avons pas de théâtre, peu de visites, peu de distractions. Rien de ce qui déchaîne les appétits vers le lucre ou la jouissance comme dans une grande ville, Paris par exemple, cette capitale du monde. Et cependant, je vois toutes les vieilles convoitises se développer parmi nous d'une façon alarmante. On a soif d'argent et de plaisir. Gros-Jean, notre fermier, se tue pour arrondir son avoir. Jacques boit tout l'argent qu'il gagne à faire des tonneaux. Jean-Pierre est à l'affût du moindre sou qu'il gaspille ensuite pour des fins moins avouables encore. Il ne s'en cache, d'ailleurs, et fuit mon regard quand il me rencontre. Jacques, au contraire, se montre plus crâne et défie le qu'en dira-t-on. Le reste de ce mur est à l'avenant. Chacun y vendrait son âme pour un louis, leur âme. Ils riraient au nez d'une indif qui leur dirait qu'ils ont une âme et qu'on peut la vendre. Le diable, qui dit-on faisait jadis ce commerce, trouverait chez nous nombre de clients. Pour le bon Dieu, allons donc, bon pour nos grands-mères. Tout leur catéchisme tient dans ces deux mots. Paisible citoyen que je suis, j'ai toujours réussi à me tenir à l'écart de toute querelle politique ou religieuse. Aussi ne m'étais-je pas rendu compte, avant les dernières élections municipales, du progrès que ces grossières doctrines ont fait dans notre cité. Mais depuis, j'en ai assez vu pour excuser les appréhensions de Madame Dupin. Où allons-nous donc ? Je suis, comme on l'a vu, dégagé de toute superstition, et je n'attache aucune importance à des scrupules de femme. Néanmoins, l'âpreté avec laquelle tout le monde se précipite vers le gain me paraît un symptôme grave. Encore, s'ils donnaient une fin plus noble à leur convoitise, s'ils ne s'acharnaient pas à des plaisirs vulgaires. Mais l'avarice de Gros-Jean qui se nourrit de pain sec et d'oignons, mais le vin bleu de Jacques, mais... voilà qui fait peine à ceux qui croient, comme moi, à l'excellence de notre nature. Bon, j'arrête ici ces considérations générales. Maire de ce mur, je me suis donné pour consigne de prêter le moins d'attention que je pourrais aux sottises qu'on peut dire ou faire dans ma commune, et de tenir un juste milieu entre la superstition des personnes respectables et la frivolité des autres. Bon, cela suffit à m'occuper tout entier. Chapitre 2. Continuation du récit de Monsieur le maire. Les deux premières journées. Il n'entre pas dans ma pensée de rattacher les simples faits que je viens de dire aux événements merveilleux qui les ont suivis. J'ai raconté jusqu'ici les choses comme elles se sont passées en vue surtout de rendre sensible la présente mentalité de ce mur, mentalité qui, j'en ai peur, n'est que trop commune à la France entière. Inutile sans doute que je le rappelle, je n'ai pas le moindre désir d'encourager la superstition. Fier à juste titre d'être un homme d'aujourd'hui, j'entends ne pas céder d'un pouce à la réaction cléricale, très décidée d'ailleurs, à respecter, dans un esprit de large tolérance, la foi des âmes simples et honnêtes, et en particulier les préjugés innocents du beau sexe. J'ajoute que je me trouve d'autant moins disposé à croire au miracle que chez moi l'imagination est plus vive. Non pas, certes, que je le regrette, car cette faculté, sans laquelle il n'est pas d'esprit supérieur, m'a donné de rares plaisirs. Mais je sais qu'elle exige d'être rigoureusement contrôlée, et par suite, s'il m'était possible de croire qu'elle m'eût abusé au cours de ces dernières semaines, je m'interdirais de consigner ici mes impressions personnelles. Aussi bien, je l'ai déjà dit, je parle dans la circonstance non comme un témoin ordinaire, mais comme porte-parole et représentante officielle de la commune, obéissant au devoir qui m'incombe de faire connaître à la France et au monde l'histoire authentique d'événements surprenants que tout citoyen de ce mur a pu constater comme moi. Je vais donc mettre en ordre et publier les différentes relations que j'ai réunies de façon à présenter au public la chronique suivie et sincère de cette mystérieuse aventure. Il n'est pas besoin que je rappelle les magnificents de l'été bourguignon. Nos vins généreux, la chair de nos fruits en disent assez là-dessus. L'été chez nous est une longue fête, la fête du glorieux soleil ajoutant d'heure en heure et sous nos yeux éblouis une chaleur, une saveur, une somptuosité nouvelle à nos vendanges. Pendant cette période solennelle de mémoire d'homme, jamais le soleil ne fut vaincu par les pluies. À peine si, par hasard, un petit nuage, salué avec joie, vient rompre pour un instant la monotonie de ce grand éclat. Quelle ne fut donc pas notre stupeur lorsque soudain, en plein juillet, au zénith de nos délices, nous nous vîmes envahis par les ténèbres comme au plus sombre jour de l'hiver. Au premier abord, la surprise fut si grande que la vie sembla s'arrêter tout court. Pendant une ou deux heures, l'activité de la ville resta suspendue. Personne ne se résignant à croire qu'à 6 heures du matin, le soleil ne fut pas encore levé. Notez bien que je ne dis pas qu'il ne se soit pas levé ce jour-là, mais simplement qu'à ce mur, il faisait encore nuit, comme en plein hiver. La matinée était déjà très entamée, lorsque, lentement et par degrés insensibles, la lumière se montra. Un fantôme, une ombre pâle de nos splendides matinées de juillet, je n'oublierai jamais l'étrange couleur de cette lumière. Le baromètre n'avait pas baissé. Il ne pleuvait pas, mais une brune grise enveloppait la terre et le ciel. J'entendis des personnes dans la rue qui disaient, et je crois que les mêmes mots vinrent aux lèvres, « Si nous n'étions pas au cœur de l'été, on croirait qu'il va tomber de la neige. » Nous avons souvent de la neige en Haute-Bourgogne. Et nous savons d'expérience par quel signe elle s'annonce. Je ne dirai rien de l'effet déprimant que produisit sur moi cette brume grise. Mes amis ont souvent remarqué l'acuité de mes sensations, et dans l'occurrence, je ne sais quelle nervosité instinctive me faisait appréhender du mystère dans ce phénomène atmosphérique. Mais ce vague danger présentait un caractère si imprévu qu'on ne s'étonnera pas que je n'ai pu résister à me l'expliquer à moi-même. C'est du brouillard, disaient les autres, et d'autres, non, c'est plutôt des nuées d'animalcules qui vont ruiner nos récoltes et répandre sur nous des semences d'épidémie. Les médecins haussaient les épaules en entendant ces explications. Ils parlaient de malaria et, autant qu'il me fut possible de les comprendre, redisaient, en termes savants, la même chose que la foule. Et la nuit fut aussi prompte à descendre sur la ville que l'aurore avait paru lente à venir. On avait éteint les lampes à 10 heures du matin, et à 6 heures du soir, elles étaient rallumées. En juillet, vous m'entendez bien. C'était le temps de la pleine lune, mais ce soir-là, pas de lune, pas d'étoiles. Rien que cet immense nuage gris qui, de minute en minute, se faisait plus sombre. On dit qu'il en va souvent ainsi en Angleterre, où nuit et jour les brouillards marins cachent le ciel. Mais de tels phénomènes sont inconnus dans notre plaisant pays de France. On pense bien que toute la nuit, ce mur ne parla pas d'autre chose. Je me trouvais dans un embarras extrême. J'avais beau faire, un pressentiment que je ne pouvais secouer me faisait redouter quelque cataclysme plus grave que la malaria ou qu'une invasion d'animalcules. Ce soir-là, accompagné de mon adjoint, M. Barbou, je fis le tour de la ville pour m'assurer que tout était dans l'ordre. L'obscurité était si noire que nous faillîmes perdre notre chemin, bien que vieux suburois tous les deux, il n'y ait pas le moindre coin de la ville qui ne nous soit familier. Il faut reconnaître que ce mur est très mal éclairé. Nous avons retenu l'ancien usage des lanternes suspendues par une corde au milieu de la rue. Je m'étais sans doute promis de marquer mes années d'office par l'introduction de l'éclairage au gaz, mais la dépense eût été trop lourde pour notre budget et d'autres objections ont empêché ce progrès. En été du reste, ces questions d'éclairage nocturne n'ont pas ici d'importance, étant donné l'éclat du ciel. Mais ce soir-là, nos pauvres lanternes, clignotant confusément d'ici de là et rendant les ténèbres environnantes encore plus noires, avaient une apparence lugubre. C'était bien pour maintenir l'ordre que nous poursuivions ainsi notre ronde et pour empêcher les rassemblements séditieux, comme ils ne sont produits que trop souvent, au risque de discréditer l'autorité municipale, aussitôt que les circonstances particulières dérangent la vie normale d'une cité. Mais je craignais aussi je ne sais quel autre danger. Monsieur l'adjoint ne disait rien, occupé sans doute des mêmes pensées que moi. Ainsi, menant notre patrouille, nous fûmes accostés par Paul Le Camus, lequel j'ai toujours tenu pour une sorte de visionnaire, homme d'ailleurs de toute honorabilité, soit dans sa vie privée, soit dans ses affaires. Il passe pour avoir des idées religieuses un peu bizarres, mais comme il n'a rien d'un anarchiste, je me suis jamais cru obligé de faire une enquête sur ses opinions. La réputation qu'il a de vivre dans un rêve continuel et d'avoir la cervelle dérangée aurait pu lui attirer des désagréments si mes idées bien connues de tolérance pour toutes les opinions professées par des personnes respectables ne lui avaient servi de protection. Je crois d'ailleurs qu'il n'ignore pas ce qu'il doit à mes bons offices. Bonsoir, monsieur le maire, me dit-il. « Oh, vous allez donc tâtonnant comme moi dans cette étrange nuit. »« Bonsoir, monsieur Paul, lui répondis-je. »« Oui, en vérité, cette nuit est bien étrange. »« J'ai peur que cela ne nous prépare un orage. » Monsieur Paul secoua doucement la tête. Avec son allure solennelle, sa longue figure blême et sa lourde moustache pendante, il m'impressionne toujours. Debout dans l'ombre de la lampe, il me regardait avec une extraordinaire gravité et continuait à secouer doucement la tête. Vous ne croyez pas, soit, l'opinion d'un homme tel que M. Paul Le Camus mérite toujours qu'on l'écoute. Oh, dit-il, on me prend pour un visionnaire, et on ne croit pas que mon témoignage ait le moindre poids. Cependant, si monsieur le maire veut bien venir avec moi, lui montrerai quelque chose de très étrange, ou quelque chose d'encore plus étrange que ces ténèbres. De plus étrange, ajouta-t-il avec un sérieux intense, de plus étrange que la pire des tempêtes qui ait jamais ravagé notre Bourgogne. Oh non, c'est beaucoup dire, un orage maintenant, au point où en sont nos vignes. Ben, ne serait rien moins que rien auprès de ce que je puis vous faire voir. Venez seulement avec moi jusqu'à la porte de Saint-Lambert. Si monsieur le maire veut bien m'excuser, interrompt monsieur Barbou, je crois que je rentrerai directement à la maison. Il fait un peu frais, vous savez, que l'humidité ne m'est pas bonne. De fait, nos habits étaient trempés d'une rosée froide, et je dus reconnaître que mon respectable collègue avait raison. De plus, nous allions arriver près de sa demeure, et il pouvait sans doute se rendre cette justice qu'il avait remplie tout son devoir d'adjoint. Il ajouta: Accompagnez donc moi jusqu'à ma porte. Ses dents claquaient un peu, le froid sans doute. L'ayant laissé au seuil de sa maison, nous continuâmes notre route vers la porte Saint-Lambert. À 7 heures, il n'y avait presque plus personne dehors. Les rues n'étaient pas moins silencieuses qu'obscures. Arrivés aux portes de la ville, nous les trouvâmes fermées comme chaque soir. Les employés de l'octroi, pelotonnés les uns contre les autres, se tenaient debout à l'entrée de leur bureau qu'éclairait une lampe. Mais la lampe elle-même, morne, entourée d'un halo jaunâtre, étouffait dans cet air mort. Les hommes grelottaient et m'accueillirent avec une satisfaction visible qui me toucha. Oh, enfin, voici monsieur le maire en personne, dirent-ils. Mes bons amis, répliquai-je, vous voilà tombés sur une nuit glaciale. La température a changé d'une façon extraordinaire. Je ne doute pas que la commission scientifique du muséum ne nous en fournisse bientôt la raison. Monsieur de Clairon, s'il m'est permis d'interrompre, monsieur le maire, fit l'employé Rioux, il se passe ici des choses où les savants n'y verront pas plus goutte que nous. Ah, vous croyez, mais vous savez bien que ces messieurs expliquent tout, dis-je d'un air badin. N'annonce-t-il pas de quel côté le vent va souffler? J'avais à peine achevé ma phrase que je crus sentir passer, venant du côté des portes fermées, un courant d'air si froid que je ne pus retenir un frisson. Les employés se regardèrent, échangeant non pas un sourire, ils étaient bien trop blêmes pour sourire, mais un regard d'intelligence. Tu vois, dit l'un. Monsieur le maire l'a ressenti comme nous. Mais je ne les vis pas frissonner. On les aurait pris pour des statues de glace, incapables de plus rien sentir. Oui, continuai-je, c'est évident, la plus extraordinaire des températures. Vraiment. J'essayais ainsi de me tenir ferme, mais je claquais des dents comme tantôt Barbou. Personne ne me répondit, mais le Camus intervint. Ayez la bonté, dit-il, d'ouvrir la petite poterne des piétons. Monsieur le maire désire continuer son inspection en dehors des murs. À ces mots, Rioux, vieille connaissance pour moi, et qui pouvait se permettre cette familiarité, me saisit par le bras. Mille pardons, fit-il, monsieur le maire, mais je vous en supplie, n'y allez pas. Qui sait qui est là dehors? Depuis ce matin, il se passe quelque chose de très étrange de l'autre côté des portes. Si monsieur le maire voulait m'en croire, il ordonnerait de les tenir fermées jour et nuit jusqu'à ce que cela soit parti et n'irait pas s'y aventurer. Mon Dieu, oh, la bouée de brave! Je connais le courage de monsieur le maire, mais s'engouffrer sans nécessité dans les gueules de l'enfer, mon Dieu! Cria de nouveau le pauvre homme. Il fit un signe de croix. personne n'eut envie de sourire. On peut bien prendre de l'eau bénite et se signer à la porte d'une église. La bonne éducation le demande, mais recourir à cette manifestation pour son propre réconfort et en public, cela n'est pas commun sauf entre gens d'église. Or, Ryu n'était pas de ces gens-là. Il se signa pourtant à la vue de nous tous, et personne ne sourit. L'autre employé, un certain Gallet du quartier Saint-Médard, moins familier car il n'était vu avec moi que des relations officielles, enleva son chapeau et dit « Si j'étais monsieur le maire, sauf votre respect, je ne me risquerais pas dans ce danger inconnu en compagnie de cet homme-ci, un dévot, un clérical, et qui a des visions. » « Ce n'est pas un clérical, répondis-je, mais un bon citoyen. Allons, passez-moi votre lanterne. Ou que le devoir me conduise, me croyez-vous capable de reculer ? Non, mes bons amis, le maire d'une commune française ne craint ni homme ni diable dans l'exercice de ses fonctions. Monsieur Paul, passez devant. » À ce mot de diable, la figure de Ryu s'était souvent contractée. Il se signa de rechef. À cette fois, je ne pus m'empêcher de sourire. « Mais mon petit Ryu, lui dis-je, savez-vous, vous êtes un nigo avec vos superstitions. Il y a temps pour tout. »« Excepté pour la religion, interrompit Gallet, elle est toujours de saison. » Je n'en croyais pas mes oreilles. « Une conversion, lui dis-je. Quelqu'un de vos pères carmes déchaussés a dû passer par ici. » Oh, monsieur le maire verra bientôt d'autres prédicateurs plus convaincants que les carmes déchaussés, dit le Camus. Et décrochant la lanterne, il ouvrit la petite porte. À cet instant, je fus encore pénétré par le même souffle glacé. Une, deux, trois, je ne saurais dire combien de fois, comme au passage de quelqu'un. Je fis du regard le tour de mes compagnons, et malgré moi, je reculais d'un pas. Je sentais mes cheveux se dresser sur ma tête. Les deux employés, se serrant encore plus l'un contre l'autre, Ryu me dit, en essayant de plaisanter, « Monsieur le maire l'a vu, ce sont les vents qui font leur petite promenade. » Mais ses lèvres tremblaient si fort qu'il eut quelque peine à former ces mots. « Mais tais-toi, au nom de Dieu !» lui dit l'autre, en le saisissant par le bras. Cela me rappela à moi-même, et je suivis le Camus, qui m'avait attendu près de la porte qu'il tenait entrebâillée. À ma vive surprise, je le vis marcher, semblable. Non, je ne sache pas d'autre mot pour traduire cette sensation, semblable à un homme qui se frayerait son chemin dans une foule. J'allais sur ses talons, mais dès que j'eus franchi la porte, un je ne sais quoi m'enleva la respiration. C'était la même sensation de foule. La bouche grande ouverte et suffoquée par cette angoisse, je tendis le bras pour saisir la main de mon guide. Cette solide étreinte me remit un peu. Lui, sans hésiter, fonçait de l'avant. Ayant dépassé la ligne d'ombre que faisaient les murailles, nous prîmes à l'ouest vers la petite tour du guetteur. Là, il s'arrêta, et moi aussi. Nous étions adossés contre la tour et nous regardions devant nous. Rien, rien que la nuit noire, qui laissait pourtant deviner la ligne de la grande route entre les deux étendues de terrain vague. Bouche bée, haletant, je reculais vers le mur. L'air et les ténèbres m'enveloppaient de la sensation la plus étrange que j'ai jamais éprouvée. Entendez-moi bien. J'avais souvent ressenti quelque chose d'analogue au milieu de 2 ou 3 milliers d'hommes, serrés dans une enceinte dont ils occupaient jusqu'au moindre recoin, piétinant, luttant des coudes, suffoquant. Oui, une foule, mais nos yeux ne percevaient que les ténèbres et la ligne confuse de la route. Une foule qui nous assiégeait de si près qu'il était impossible de mettre quelque intervalle entre elle et nous. Mais qu'est-ce que je dis ? En vérité, il n'y avait personne. Il n'y avait rien. Pas une forme visible, pas un visage, rien que le Camus et moi. Moment d'angoisse, je l'avoue. Ma langue était enchaînée et mon cœur battait à tout rompre. Je ne respirais qu'à grand-peine. Me cramponnant à le Camus, je me renfonçais désespérément contre le mur. Et cependant, je ne tentais pas de me dégager, de fuir. Me dégager, fuir, comment l'aurais-je pu ? Ils étaient là, près de nous, souffle contre souffle. Ah, vous allez dire que je suis fou d'employer de telles paroles, car enfin il n'y avait personne, pas même une ombre, sur la route. Le Camus n'aurait demandé qu'à aller de l'avant, prêt à s'engager sans peur à travers ce brouillard. Je n'aurais pas eu ce courage. Heureusement, j'étais le plus fort et il ne pouvait me résister. Je me collais plus étroitement à lui et commençais à le traîner avec moi contre le mur. Je voulais rentrer à tout prix. J'avançais donc péniblement, trébuchant à chaque pas, me déchirant les mains aux pierres du mur, et malgré moi, faisant toujours face à cette foule. Miséricorde, la poterne était fermée. Moi, qui n'ai jamais eu peur de ma vie, je connus alors les affres de l'agonie. Je donnais de tout mon poids et de celui de mon compagnon contre la porte, qui s'ouvrit enfin, Dieu merci. Je rentrai tout flageolant, et m'accrochant de ma main libre au bras de Rioux, je m'écroulai sur le plancher de l'octroi. Ils me crurent évanoui, mais non. Un homme digne de ce nom peut céder pour un instant à des sensations irrésistibles. Le corps fléchit, mais l'âme reste debout. Aussi ne tardai-je point à rallier mes forces. Les employés éperdus me tendaient l'un une serviette mouillée, l'autre un verre d'eau-de-vie. Ils furent pleins de stupeur. Quand ils me virent me redresser, pâle encore, mais pleinement maître de moi. Non, ça suffit, leur dis-je en les repoussant du geste. Non, pas de cordiaux, je vous remercie, messieurs, mais je n'ai besoin de rien. Mon sang-froid les impressionna manifestement et les aida à se ressaisir eux-mêmes. Malgré l'état de faiblesse et d'agitation où je me trouvais, j'éprouvais quelque douceur à penser que j'étais resté jusqu'au bout, à la hauteur de ma tâche. Monsieur le maire a vu ce qu'il y a dehors, me cria Rioux bégayant tant il était excité. L'autre dardait sur moi les yeux affamés de curiosité, si l'on peut parler ainsi. « Ben, j'ai rien vu du tout, Rioux, » lui répondis-je. Il me regardait avec un étonnement extrême. « Monsieur le maire a vu, n'a rien vu, » dit Rioux. « Ah oui, je comprends. Vous dites cela pour ne pas nous faire peur. Nous avons été nous-mêmes si lâches tantôt. Ben, si vous me permettez, monsieur le maire... Vous aussi, vous êtes rentré bien précipitamment. Il y a des choses qui émeuvent les plus braves, mais je vous en supplie, dites-nous ce que vous avez vu. Mais rien du tout, leur répondis-je. Et comme je parlais, je reprenais mon calme ordinaire. Je sentais mon cœur battre plus paisiblement. « Il n'y a absolument rien à voir, les ténèbres et tout au plus un ruban de route. Non, il n'y a rien à voir. » Il continuait à me fixer, partagé entre l'incrédulité et la surprise. il ne savait que penser. Comment ne pas me croire, moi, qui étais là, tranquillement assis, les regardant sans sourciller et leur parlant d'un air de sincérité manifeste. Mais d'un autre côté, comment expliquer mon retour précipité, mon apparente défaillance et la pâleur de mon visage? Il ne savait que penser. Ici, pour le dire en passant, observez combien il est bon et utile d'être tout à fait sincère. Si je leur avais menti, je n'aurais pu supporter leur regard braqué sur moi. Mais je ne mentais pas. Il n'y avait rien, rien à voir. Et c'était là, du reste, ce qui m'accablait le plus. Mais à quoi bon attirer sur de tels détails la réflexion de ces âmes simples? Il n'y avait rien, je n'avais rien vu. Je ne les trompais pas en parlant ainsi. Pendant tout ce temps-là, le Camus avait gardé le silence. En me relevant, je l'avais aperçu confusément, qui remettait la lanterne à l'endroit où il l'avait prise. Revenu tout à fait à moi, je le voyais maintenant d'une façon plus distincte. Il s'était assis sur un banc contre le mur. Calme et sans donner aucune marque de cette agitation finissante qui allait s'apaisant dans mes veines comme les dernières vibrations d'une harpe, il était assis, la tête basse, les yeux fichés en terre, l'air déçu et découragé. Je me levai aussitôt qu'il me parut que ma dignité me permettait de laisser la place. J'appelai le Camus. Il m'entendit et se leva, mais avec répugnance. Laissé à lui-même, il n'aurait pas désiré partir. Tout autre étaient les sentiments de Rioux et de Gallet. Ils firent l'impossible en vue de prolonger la conversation, me posant avec une lente déférence mille questions inutiles, se serrant près de moi, enfin essayant tous les expédients pour me retenir. Nous partis, ils restèrent debout, l'un tout près de l'autre, sur le seuil de la maisonnette, nous suivant d'un long regard, la figure pâle et contractée, les yeux fous d'angoisse et de détresse. Oh, je n'oublierai jamais ce tableau. Je ne me rendis exactement compte de ce qui venait de se passer que lorsque j'entendis mes pas et ceux de mon compagnon sonner sur le pavé de la ville. L'effort que je m'étais imposé pour réagir contre mon angoisse et pour faire calme figure devant mes administrés m'avait empêché jusque-là de me remémorer les détails de cette aventure terrifiante. Maintenant, je revivais une à une, avec une nouvelle épouvante mêlée de quelque honte, toutes ces minutes d'agonie. Le Camus marchait à côté de moi, la tête basse et sans rien dire. Deux ou trois fois, il se retourna vers cette poterne par où mon affolement l'avait fait rentrer malgré lui. Quand nous fûmes assez éloignés de cette porte ainsi ouverte sur l'invisible, je me risquai à demander à mon compagnon ce que tout cela voulait bien dire. « Le Camus, lui dis-je, mais les mots me venaient difficilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous une idée? Comment expliqueriez-vous? » Mais les mots me venaient assez difficilement. Je puis néanmoins me rendre ce témoignage que je parlais sans trop laisser voir mon émotion. Il répondit lentement. On ne cherche pas à expliquer, on voudrait voir, c'est tout. Si M. Hulbert n'avait pas été si pressé, s'il avait bien voulu aller plus avant, continuer les recherches... Dieu garde, lui dis-je, repris d'une panique presque irrésistible qui me poussait à doubler le pas pour me mettre au plus vite à l'abri dans ma maison. J'eus pourtant la force de rester calme, et de me plier à son allure désespérément lente, l'allure d'un homme contraint et qui se résigne difficilement à ne pas retourner en arrière. Qui avait-il? La voix de la nature semblait me dire au cœur, « Ne le cherche pas, ne le cherche pas !» Et toutes sortes de pensées accablantes se présentaient à mon esprit. C'était à devenir fou. Je me couvris les oreilles de mes deux mains pour arrêter je ne sais quel bourdonnement d'abeilles. À ce geste, le Camus se retourna, il me regarda, grave et surpris. Cela me fit honte de ma faiblesse. Mais comment je puis arriver chez moi? En vérité, je ne saurais le dire. Ma mère et ma femme m'attendaient, pleines d'inquiétude. Ah, j'ai oublié de mentionner plus haut un détail insignifiant qui, dans ces derniers jours, avait un peu troublé la paix de notre ménage. L'occasion est bonne pour réparer cet oubli. Ma mère et ma femme s'étaient mis martel en tête à propos de quelques modifications apportées par la municipalité dans les règlements de l'hôpital Saint-Jean. La grande salle de cet hôpital, contiguë à la chapelle, était aménagée de telle sorte que, sans quitter leur lit, les malades entendaient la messe de tous les jours. Plusieurs s'étaient plaints à ce sujet, disant que cette messe forcée troublait leur repos. Les plaintes s'étant multipliées, nous avions dû statuer que cette cérémonie n'aurait plus lieu, à moins qu'on aimât mieux élever une cloison entre la chapelle et le dortoir. Je n'ai pas besoin de dire que les sœurs de Saint-Jean se mirent à remuer ciel et terre contre cette décision. Je n'ai pas besoin non plus de dire que maire de ce mur et tout ensemble représentant et guide de l'opinion publique, ni les reproches qui furent murmurés à mot couvert en ma présence, ni même les réclamations formelles n'eurent absolument aucun résultat. Je professe le plus grand respect envers les sœurs de Saint-Jean. Ce sont d'excellentes femmes et des infirmières accomplies auxquelles la commune est très redevable. Mais enfin, la justice doit être la même pour tous. Aussi longtemps que je resterai à la tête de la municipalité, le devoir m'oblige à tenir la balance égale entre tous mes administrés. Il ne s'agit pas des opinions que je puis avoir comme homme privé et qui seules régleraient ma conduite le jour où il me serait permis de rentrer dans le rang. Mais allez faire comprendre à des femmes ces distinctions élémentaires. Bon, je reviens à mon récit. J'avoue que le reste de la nuit fut très agité. Quiconque a tant soit peu d'expérience sait que, dans les ténèbres le silence, toute inquiétude devient obsession. Or, la nuit était plus noire, les rues de ce mur, ordinairement peu bruyantes, plus silencieuses que jamais. De temps en temps, quand mes pensées me donnaient un peu de relâche, je pouvais entendre la douce respiration de mon Agnès couchée dans la chambre voisine. Cela me remontait un peu, mais bientôt mes souvenirs m'étreignaient et me harcelaient de nouveau. Encore et encore la même vision se glissait sous mes paupières fermées. Le brumeux ruban de route qui part de la porte Saint-Lambert, la double haie de buissons encore plus obscurs, personne, personne, pas une ombre, pas une âme, et cependant une foule. Quand je cédais à l'envie de réfléchir sur le mystère, mon cœur sursautait dans ma poitrine et je sentais mon sang courir furieusement dans mes veines. On pense bien que je résistais de toute ma volonté à cette exaltation morbide. Et peu à peu, la nuit déclinant, j'eus plus d'énergie à me défendre. Résolument, je tournai le dos pour ainsi parler à ces souvenirs, et je me dis à moi-même, avec une fermeté croissante, que toutes les sensations ne peuvent venir que des sens. Toutes ces impressions, qui sans cela seraient inconcevables, devaient avoir leur explication dans quelque désordre nerveux. Pour peu qu'on la mette sur la voie, la science a réponse à tout. Quelques mauvais tours, évidemment, que m'aura joué mon système nerveux, trop affiné. Plus la sensibilité est vive et délicate, plus aussi l'on est exposé au désordre de ce genre. Au demeurant, bon, tenons-nous bien, et évitons d'exaspérer ces impressions morbides en les ruminant de nouveau. Ce duel entre mon bon sens et les caprices de mon imagination rendit plus courtes, sinon plus tranquilles, les heures de cette nuit. À la fin, le sommeil eut le dessus. Il n'est meilleur cordial, et je me trouvais tout raillé et hardi quand je me réveillais à la première aube. Je me serais presque moqué de mes ridicules terreurs. Rien ne vaut pour rafraîchir les nerfs la certitude que le jour a commencé, même s'il ne luit pas encore. 4, 5, 6, j'entendis sonner à l'horloge de la cathédrale les premières heures du matin. Je me levai un peu avant 7 heures, mais, chose étrange, tout dormait encore, et chez moi et dans la rue. Les portes de la cathédrale restaient fermées, phénomène inouï jusqu'à ce jour. De si bonne heure qu'on se lève à ce mur, on est toujours sûr d'avoir été devancé par le sacristain, le père Lazerque. Ce bon vieux aime à répéter que la maison de Dieu doit s'ouvrir avant toutes les autres, prête à accueillir les malheureux qui n'auraient pas trouvé d'autre abri. Mais ce matin-là, les ténèbres avaient mystifié jusqu'au père Lazerque lui-même. Je ne m'explique pas pourquoi, mais j'eus un étrange frisson en voyant pour la première fois ces lourdes portes fermées. Ouvertes, il me semblait que je serais volontiers entré dans l'église, moi qui pourtant n'y vais jamais, sauf le dimanche à la messe, pour donner l'exemple. Les boutiques dormaient aussi, et les oiseaux sur les arbres. J'allais jusqu'au rempart du côté du Mont-Saint-Lambert. J'entendais bien, au-dessous de moi, la vive chanson de notre rivière, mais sans voir autre chose qu'une brume épaisse. Je ne m'aventurais point à regarder plus loin, par-delà les murs, à quoi bon. Il n'y avait rien, rien du tout. Je le savais bien. Néanmoins, je jugeais plus sûr de ne pas donner le moindre prétexte aux fugues de mon imagination et de brider l'activité décevante de mon système nerveux. Ce brouillard ne m'accablait que trop déjà. 1000 terreurs indéfinies grouillaient dans l'air. Par moments, mon cœur se remettait à battre les champs. Du reste, tout était parfaitement calme, comme un cimetière. Les mots que j'avais entendus plusieurs fois ces derniers jours me revenaient à la pensée. « C'est plus qu'il en faut pour que les morts sortent de leur tombe. » Ah, le dicton bizarre. C'est nous plutôt, nous les vivants, qui semblons aujourd'hui emprisonnés dans une tombe. Enfin, une vague blancheur s'insinua parmi les ténèbres. Derrière une nuée transparente qui se déroulait lentement, je vis se dessiner la rivière et les prairies qui la voisinent. Cette vue m'allégea un peu le cœur et je revins sur mes pas dans ce vague crépuscule. La rue commençait à bruire. Un reste d'effroi, un commencement de honte se peignait sur les visages. Des bâillements, des bras qui s'étirent. « Bonjour, monsieur le maire, vous êtes bien matinal. »« Matinal, allons donc, leur répondais-je, mais regardez vos montres. » Et tous de me dire, les uns après les autres, « Oui, nous sommes joliment en retard ce matin. Ça a été tout comme hier, impossible de se réveiller. » Le père Lazerque grommelait, assis sur les degrés de la cathédrale. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas sonné la messe de 6 heures, pas ouvert les portes de l'église, pas appelé monsieur le curé. « Je crois que je deviens fou, me dit-il, monsieur le maire, mais aussi quel temps! Vit-on jamais rien de pareil, il doit couver quelque malheur. C'est pas pour rien que les saisons perdent la tête, et que voici l'hiver au milieu de l'été. » Là-dessus, je rentre chez moi. Ma mère débouche précipitamment d'une porte, ma femme d'une autre. « Oh, mon fils, oh, mon ami !» crie-t-elle en se jetant sur moi. Elles pleuraient toutes leurs larmes, les chères créatures. Je dus les laisser faire pendant quelques instants sans mot dire. Ce premier transport passé, je leur demandais ce qu'elles avaient. Et de fil en aiguille, elles avouèrent qu'elles m'avaient cru frappé de quelque catastrophe en punition du tort que j'avais fait aux sœurs de l'hôpital. « Vite, vite, mon fils, réparez cette faute !» criait ma mère, « si vous ne voulez pas qu'une pire calamité nous arrive. » Je gardais mon sang-froid et continuais mes questions. Alors, peu à peu, je me rendis compte du ridicule travail qui s'était fait chez plusieurs femmes et chez les pauvres gens de ce mur. Ils avaient fini par se persuader que le brouillard était la réponse du ciel à la décision que le conseil municipal avait prise au sujet de l'hôpital. En vérité, c'était par trop fort. « Mais croyez-vous, leur dis-je en colère, que vos superstitions ridicules vont me faire capituler dans mon devoir ? Ah, vous voulez vous ramener aux pires exploits des sorcières ?» Je n'en dis pas plus long. À la vérité, je savais bien que personne à ce mur n'était pour rien dans ces perturbations atmosphériques, mais je voulais couper court à ces rumeurs malsaines. Ma femme pleurait tout bas, ma mère criait de plus belle. Mais il n'y a femme ni mère qui tienne quand mon devoir est en cause, je suis ainsi fait. Toute cette journée fut lamentable. C'est à peine si, de tout près, on pouvait se reconnaître. Pour augmenter nos inquiétudes, quelques étrangers qui nous arrivèrent par la diligence nous dirent que le cercle des ténèbres ne s'étendait pas plus loin que ce mur. À 1 kilomètre de la ville, le soleil brillait de tout son éclat. Ces nouvelles portèrent l'affolement à son comble. Des groupes se formaient au coin des rues, commentant ce terrible mystère. L'adjoint, M. Barbou, me vint voir. Il se demandait si, pour calmer l'imagination et l'excitation des esprits, nous ne ferions pas mieux de rapporter le décret au sujet de l'hôpital. Oh, je l'arrêtai brusquement. « Mais vous n'y pensez pas, mon ami. Nous avouer coupables alors que nous n'avons fait que notre devoir ?» À d'autres. Croyez-vous par hasard que les incantations de ces bonnes sœurs ont noirci le ciel ? Il hocha la tête et me quitta, plein de troubles. Le brave homme ne brille pas par le caractère. Moi aussi, on avait essayé de m'influencer, mais je ne suis pas homme à me laisser embobliner par des femmes. J'arrive à l'incident capital par où commença vraiment la série de nos aventures. Pendant tout l'après-midi, les ténèbres n'avaient pas cessé de s'accroître. Étrange crépuscule, aussi noir que la plupart de nos nuits. Entre 5 et 6 heures, les habitants se répandirent dans les rues comme à l'ordinaire. Assis à ma fenêtre, je les observais, prêt à me porter sur les lieux en cas d'alerte. Soudain, je me rendis compte qu'il se passait quelque chose d'anormal. Malgré l'obscurité, il me semblait voir la foule se masser en face de la cathédrale. Je pris mon chapeau et descendis. La place débordait de monde. Toutes les têtes étaient braquées sur la cathédrale. « Mais qu'est-ce que vous regardez, mon ami ?» fis-je au premier que je rencontrai. Il tourna vers moi un visage dont je pus discerner même dans cette nuit la pâleur lugubre. « Mais regardez-vous bien, monsieur le maire, » dit-il. « Vous ne voyez rien sur la grande porte ?»« Moi, non, rien du tout, » lui dis-je. Mais à la même minute, je voyais déjà quelque chose de bien surprenant. Suspendu à la porte de la cathédrale, je vis ou je crus voir une pancarte flamboyante qui portait en lettres géantes ce mot « sommation ». « Tiens !» criai-je, mais aussitôt, je ne vis plus rien. « Qu'est-ce cela ? » continuai-je, malgré moi, quelque diablerie. « Hé, Jean-Pierre, vois-tu quelque chose ?» Jean-Pierre me répondit, « Monsieur le maire, on voit, puis une seconde après, on ne voit plus rien. Tenez, voilà que ça revient. » Il disait vrai. Je crois pouvoir dire que je ne suis pas un lâche, mais que voulez-vous, à cette vision extraordinaire, je me sentis envahi par une panique analogue à celle de l'autre nuit. Certes, je n'aurais fui pour rien au monde, mais j'avoue que mes genoux s'entrechoquaient rudement. Je restai là, quelques minutes, incapable d'articuler le moindre mot. Tous, du reste, nous étions logés à la même enseigne. Oh, que de ma vie, je n'ai vu foule plus silencieuse. Un même frisson nous secouait tous. On nous aurait pris pour des condamnés à mort, attendant la réponse à leur recours en grâce. Comme des flambeaux allumés pendant une nuit d'orage, tantôt le vent semble les éteindre, tantôt il les ranime, et l'on va, perdant et retrouvant tour à tour les objets que dessine cette lumière intermittente. Ainsi, d'une minute à l'autre, cette sorte d'immense affiche rutilait soudain, puis s'effaçait aussi vite. Sommation, c'était le titre, comme je dis, puis venaient d'autres mots de feu que j'épelais, puis construisis péniblement à la lumière incessamment interrompue de chaque nouvel éclair. Horreur! Tous les habitants de ce mur et moi, leur mère en tête, nous étions sommés d'avoir à vider les lieux que nous avions perdu le droit d'occuper et à laisser la ville à ceux qui, étant morts, connaissaient mieux que nous le sens de la vie. J'ai su plus tard que chacun des habitants avait pu lire, comme moi, son propre nom en gros caractères, bien que ces milliers de noms ne puissent tenir, je ne dis pas sur les portes, mais sur la façade entière de la cathédrale. Nous, les morts, ces mots étincelaient presque à chaque ligne du terrible manifeste, et encore, allez, allez-vous-en, laissez la place à ceux qui savent le vrai sens de la vie. Je ne me rappelle que ces lambeaux. C'est là, du reste, ce qui me parut le plus clair au moment même de la lecture. Pas d'autres explications, pas d'autres détails. Je restai là, quelque temps, muet d'épouvante. Le premier saisissement passé, je fis réflexion que c'était à moi de donner l'exemple du sang-froid et du bon sens à mes administrés, de rompre le charme de terreur superstitieuse qui accablait cette foule crédule. C'est une mauvaise farce, criai-je à haute voix, de façon à être entendu de tous. Qu'on aille me chercher le conservateur du muséum, M. de Clairon. Il nous expliquera ce coup de théâtre. Mon affirmation intrépide dissipa le cauchemar. Je me vis entouré d'une centaine de figures blêmes. C'est monsieur le maire, criait-on, il va tirer ça au clair. Et les rangs s'ouvraient devant moi jusqu'au milieu de la place. Monsieur le maire est un homme de cœur et de tête. Écoutez, monsieur le maire. Mes quelques paroles les avaient tous réconfortés. Je me trouvai bientôt près de monsieur le curé, debout au milieu des autres, silencieux et l'air aussi étonné que nous tous. Il me jeta, du creux de ses épais sourcils, un de ces vifs regards dont il a l'habitude, et se rangea pour me laisser passer, mais sans rien me dire. Moi, au contraire, soulevé que j'étais par l'étonnement, l'inquiétude, et par l'entrain factice que je me donnais, j'avais un besoin fou de parler, et pour me le persuader à moi-même, de répéter à pleine voix que tout cela n'était qu'une farce. Oh, mais tous mes compliments, monsieur le curé, lui dis-je, pour le merveilleux transparent que vous avez dressé là, sur votre église. Voilà sans doute venu pour jouir de l'effet. Vous ne pouviez mieux réussir, mais maintenant, vous seriez bien aimable de me confier votre secret. Ces mots ne manquaient pas d'ironie, mais j'étais trop bouleversé pour garder les formes. Il me jeta de nouveau un de ses regards rapides et perçants. « Vous me faites injure, monsieur le maire, » me répondit-il. « Je n'aime pas plus que vous à mystifier les gens. » Il me dit cela sur un ton qui me fit honte, mais j'ai été lancé. « Oh, c'est bien, dis-je, que la conscience des hommes d'église est plus large que celle des honnêtes gens. » Sans me répondre, il me regarda droit dans les yeux, haussant les épaules avec impatience. En vérité, oui, quel droit avais-je de le soupçonner ainsi? Depuis qu'il est chez nous, on n'a jamais rien eu, rien à lui reprocher. Mais quoi, c'était le curé, et nous autres laïcs, nous avons peut-être aussi nos préjugés. Du reste, les torts réciproques s'oublient vite à de tels moments. Un peu après, pendant que nous attendions l'arrivée de M. de Clairon, M. le curé laissa tomber quelques mots qui donnaient à entendre que ses propres soupçons se portaient sur les religieuses de l'hôpital. « Monsieur le maire, me dit-il, il ne faut jamais se faire d'affaire avec les femmes, car tout leur semble légitime pour arriver à leur fin. » Ces mots me parurent passablement étrange. On aurait dit que monsieur le curé abandonnait ses propres troupes. Je note ces horribles détails par scrupule d'exactitude, car en vérité, rien ne pouvait nous distraire de l'extraordinaire spectacle qui se déroulait devant nous. Nous attendions à le temps l'arrivée de monsieur de Clairon. Il mit un siècle à venir. Enfin le voici, avec sa haute science qui ne fera qu'une bouchée du prétendu miracle. La foule lui livre passage jusqu'au degré de la cathédrale, qu'il monte d'un pas assuré. Ô prodige, le flamboiement pétille plus fort que jamais. Nous, les morts, allez-vous-en. Les mêmes mots se laissent lire à nouveau entre les mêmes intervalles de ténèbres. Épouvantés, nous suivions tous les mouvements de sa silhouette noire qui se débattait comme dans un incendie. Il redescendit, très pâle, avec un pauvre sourire qui voulait être goguenard. « Ma foi, monsieur le maire, me dit-il, je ne trouve pas le truc, c'est très fort, mais je vais recommencer mon examen. En attendant, j'ai mis quelqu'un en sentinelle, pour que tout reste en l'état, si toutefois, monsieur le curé... « Oh, faites, faites, monsieur, vous avez plein pouvoir, » répondit monsieur le curé. Toujours très pâle, monsieur de Clairon tâchait de rire. « Vous avez vu mon nom, je pense. Voilà qui est drôle, car enfin, je n'ai pas l'honneur d'être de ce mur. Messieurs les morts ont du temps à perdre pour s'occuper ainsi d'un pauvre chimiste comme moi. » « En tout cas, vous aurez mon rapport avant ce soir. » Faute de mieux, il fallut bien se contenter de cette promesse. La vision s'était dissipée et chacun rentra chez soi, trébuchant dans les ténèbres. Grâce à Dieu, ni ma femme ni ma mère ne s'étaient doutées de rien. Elles me virent soucieux et me pressèrent de questions timides, mais je fis bonne contenance et gardai pour moi mon secret. Beaucoup plus tard, dans la soirée, M. de Clairon vint me dire le résultat de ses recherches. C'était à n'y rien comprendre. Une farce, évidemment. Et que pouvait-ce autre chose? Mais jouer de maîtresse main. Il n'y a pas à dire, nous sommes roulés sur toute la ligne. Pour moi, ma conviction était faite. Monsieur le curé se trompait. Prestidigitation ou non, les sœurs n'y étaient pour rien. Imaginez qu'elles aient machiné la chose. Elles n'auraient pas manqué l'occasion de nous servir quelques sermons de leur cru, la Sainte Vierge, dont Dieu me préserve de parler autrement qu'avec un profond respect. Le Saint Antoine, le devoir Pascal, toute la lyre, Monsieur le curé de même. Mais là, rien, aucun rappel du catéchisme. Seulement ces trois mots, si courts et si pleins, le sens de la vie. En vérité, malgré mes propres affirmations de tantôt, tout cela n'avait pas l'air d'une imposture. Mais alors, qu'est-ce que cela pouvait bien être ?